Dr. Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou! Et comment on peut stationner pour des morceaux de cailloux?
Mais ce ne sont pas de simples cailloux!
Quel genre de chantier sommes-nous?
Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
Les pierres qui roulent.
Les pierres qui roulent.
C'est l'heure des pierres qui roulent sur Radio Campus Paris. 93.9. Et oui, s'il n'est pas confronté à tous les coins de rue à de méchants nazis, de méchants communistes ou des extrémistes hindous, comme ce bon vieil Indy, l'archéologue d'aujourd'hui doit tout de même pas mal se battre au quotidien.
Mais contre quoi, nous direz-vous ? Eh bien, comme beaucoup d'autres sciences humaines, l'archéologie souffre de la baisse des dotations de l'État aux universités et aux organismes de la recherche, ainsi que du manque criant de financement pour les jeunes chercheurs. La précarité des professionnels, en particulier des plus jeunes, augmente dans un contexte de mise en concurrence des opérateurs habilités à diriger les fouilles archéologiques. Et enfin, des discours qui, dans une veine quasi-complotiste, remettent en cause les résultats issus des travaux des archéologues, trouvent de plus en plus d'audience dans la société, tandis que l'on constate en même temps l'augmentation des pillages de sites.
Le mois dernier, les pierres qui roulent questionnaient la pratique archéologique dans des zones de conflit. Et cette fois-ci, nous nous penchons sur les conflits auxquels les archéologues sont susceptibles d'être confrontés tous les jours. Un quotidien pas toujours rigolo, certes, mais toujours passionnant et stimulant par la profondeur des questions qui l'obligent à se poser.
Et pour discuter de tout cela, nous accueillons en studio deux invités. Alors tout d'abord, Béline Pasquini, bonjour.
Bonjour.
Alors Béline, tu es doctorante à Paris 1 au sein du laboratoire ArsCan et plus précisément l'équipe archéologie environnementale. Et toi, tu travailles dans le cadre de ta thèse, tu t'intéresses à l'impact des flux commerciaux sur le développement des territoires entre la vallée du Rhône et la mer du Nord à partir de la fin de l'âge du fer et ce jusqu'au début du Moyen-Âge. C'est bien ça. Voilà. Et on accueille également Bastien Rueff. Bastien, bonsoir.
Bonsoir.
Et Bastien, tu es aussi doctorant en archéologie, aussi à Paris 1, aussi au laboratoire ArsCan, mais par contre dans l'équipe protohistoire EGN. Et toi, tu t'intéresses à un tout autre sujet, puisque tu t'intéresses à la question des lampes, à la question de l'éclairage et de l'architecture en Crète à l'âge du bronze, c'est-à-dire, on précise quand même l'âge du bronze, entre 3002 et 1100 avant Jésus-Christ.
Absolument.
Alors bienvenue à tous les deux. Alors pour commencer, Bastien, est-ce que tu es doctorant, tu es jeune doctorant, parce que tu es en deuxième année, c'est ça je crois?
C'est ça. Ouais.
Et est-ce que tu es content de ton quotidien? Est-ce que ça te plaît ce que tu fais?
Alors oui, je suis content, je suis même passionné par ce que je fais, par l'archéologie. C'est quelque chose qui est, c'est une chance extraordinaire. En revanche, c'est vrai que le quotidien d'un doctorant n'est pas toujours optimal, c'est semé d'embûches on va dire. D'abord c'est un travail scientifique de grosse ampleur qui prend plusieurs années donc qui nécessite aussi d'être motivé, d'avoir un petit peu l'habitude de faire des recherches. Et puis en effet moi j'ai la chance là d'être financé actuellement, mais la plupart des doctorants ne sont pas financés. Or une thèse de doctorat en sciences humaines, ça dure en moyenne 6 ans, donc ne pas être financé pendant 6 ans c'est quand même assez compliqué après plusieurs années d'études, sachant qu'on contribue directement et activement à la vie scientifique des laboratoires et des écoles doctorales, à la vie scientifique et également à l'enseignement, puisqu'il existe des doctorants qui sont soit dans le cadre de leur contrat doctoral, soit en tant que vacataire, enseignants également à l'université. Donc ce qui demande de préparer des cours, d'être assez pointu sur les sujets qui sont enseignés. Et voilà.
Et on peut donner quelques chiffres pour donner la mesure un peu à nos auditeurs du financement. Les contrats doctoraux, donc ce qu'on appelle les contrats doctoraux, c'est-à-dire qu'en fait on est salarié de l'université pour réaliser sa recherche, ça représente quoi? C'est 4-5 contrats doctoraux, 6 pour Paris 1 en l'occurrence je crois.
6 pour Paris 1, mais il faut préciser qu'à Paris 1, il y a environ 60 masters qui soutiennent leur master 2, donc ça fait finalement seulement 10% des...
En archéologie uniquement.
En archéologie uniquement. Donc ça fait quand même seulement 10% de gens, de doctorants qui sont financés à l'issue de... Enfin, en tout cas, de personnes qui obtiennent un contrat doctoral. Et bien des gens qui soutiennent leur master 2 souhaiteraient continuer en thèse, mais n'y parviennent pas. Ou alors, quand ils se lancent dans l'aventure, rencontrent des difficultés quand même tout au long de leur parcours.
Et ce, quel que soit... parce que souvent, la grande majorité des recherches sont de très très grande qualité, mais ça suffit malheureusement pas pour... obtenir un financement.
Ouais, bah oui, on est encore une fois, c'est limité par les faibles budgets. Après, ce qui serait l'idéal serait que tous les doctorants puissent être financés, mais à la condition qu'il y ait une augmentation du nombre de contrats doctoraux et non pas qu'on réduise le nombre de doctorants en archéologie.
Et toi, donc, tu disais que tu étais financé maintenant, mais avant, du coup, la première année, tu l'as pas été financé.
Non, alors en effet, la première année, je n'étais pas financé. Je travaillais dans un collège comme surveillant à mi-temps. J'ai eu la chance de trouver un contrat doctoral au début de ma deuxième année, ce qui est finalement assez rare parce que, passé la première année, il n'y a plus beaucoup de possibilités d'obtenir un contrat doctoral. Mais donc, j'ai vécu aussi ce quotidien de travailler à l'extérieur de l'université et d'essayer quand même de conduire mes recherches en parallèle.
Ouais. Puis aussi, on peut parler aussi des autres. Donc, tu parlais des questions de l'enseignement. Il y a des doctorants qui se financent en donnant des heures d'enseignement pour rendre compte à nos auditeurs du niveau. Une vacation d'enseignement, une heure d'enseignement, c'est payé combien ?
À ma connaissance, c'est payé 40 euros de l'heure. Mais sachant que pour préparer une heure de cours, il faut compter quand même plusieurs heures de travail à côté.
Donc, finalement, plusieurs jours, largement.
Oui, parce que Béline, du coup, tu es aussi
en
enseignant.
Une heure et demie par semaine cette année. Donc, c'est les premiers cours de ce type que je donne. Et quand on n'a jamais donné un cours, moi, je prends au minimum 5 jours pour préparer un cours d'une heure et demie. Voilà, parce qu'on ne maîtrise pas forcément énormément le sujet au départ, donc il faut énormément travailler.
Donc ça fait 40 euros pour 5 jours de travail.
Normal.
C'est pas facile de finir le mois de cette façon-là. Et puis, oui, aussi, on peut peut-être parler contre ces difficultés de financement, etc. Contre tout ça, il y a des collectifs, il y a des associations qui se forment, en fait, pour essayer de demander d'autres choses. Et dans ton université, à Paris, Bastien, il y a une association qui est en train de se monter, qui s'appelle la mobilisation des doctorants de Paris 1.
Alors oui, depuis l'année dernière, il y a des doctorants qui sont regroupés en mouvement de mobilisation, les doctorants mobilisés de Paris 1, et qui s'insurgent de la précarisation finalement des conditions de travail en doctorat, et qui avait un certain nombre de revendications et qui finalement mènent ce combat à travers les instances décisionnaires de l'université, puisque finalement ils ont réussi à, pour une fois, être représentés au sein des conseils centraux de l'université qui prennent les décisions et dans lesquels les doctorants étaient peu, voire absolument pas représentés, ce qui finalement ne permettait pas de véritablement défendre les conditions de travail.
Et cette association, du coup, elle est aussi, je crois, très très en lien avec le collectif des précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'est en train de se monter, notamment en Ile-de-France, mais aussi à l'échelle nationale. Et pour ne pas que rester centré sur l'université, on peut aussi parler aussi parce que l'autre débouché quand on sort d'un master en archéologie, donc c'est la recherche, l'enseignement, et c'est aussi bien sûr le terrain, partir sur des opérations de fouilles. Est-ce que toi tu peux nous parler des expériences dont tu aurais eu un écho? Est-ce que c'est facile de trouver du boulot sur le terrain en ce moment, par exemple?
Alors déjà, c'est très difficile de trouver du travail à l'université après le doctorat. Aujourd'hui, il y a les chiffres de les postes de maître de conférence qui ont été annoncés. On en compte en moyenne 5 ou 6, à ma connaissance, par an en archéologie, ce qui est très peu.
Toute spécialité, donc
toute spécialité
depuis le début de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine.
Voilà. Et en ce qui concerne le terrain, donc le débouché professionnel en archéologie, c'est l'archéologie préventive. Et là, c'est quand même assez catastrophique, les conditions d'embauche, puisqu'en effet, depuis quelques années, finalement, donc l'INRAP, qui est le principal organisme étatique d'archéologie préventive, ainsi que les collectivités territoriales et les entreprises privées, embauchent très peu. Ou quand ils embauchent toujours sur des contrats très précaires, à savoir des CDD qui durent au mieux quelques semaines, quelques mois.
Ouais, donc c'est effectivement difficile de démarrer dans la vie dans des conditions de précarité aussi, ouais. aussi profondes.
Et toi, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Moi, je veux faire archéologue. We'll be right back.
C'était donc les Beastie Boys avec Fight for Your Rights, un titre de 1986.
Et oui, oui, alors Bastien nous a bien expliqué comment c'était, à quel point c'était passionnant comme métier, le métier d'archéologue, mais c'est vraiment, vraiment pas facile tous les jours. Et en plus, même une fois qu'on arrive à mettre le pied dans le travail, eh ben, il lui arrive à l'archéologue de se confronté à des problèmes aussi assez complexes. Il y a plein de questions auxquelles il est amené à se confronter dans le cadre de sa pratique quotidienne qui peuvent lui poser des questions. Et à propos de tout ça, justement, Béline, avec l'aide avec Ségolène Van de Velde, tu prévois d'organiser une journée d'études qui va se dérouler, je crois, en 2018.
Oui, en juin 2018 à Paris 1. Ce sera sûrement deux journées, parce qu'en fait, finalement, il y a beaucoup plus à dire que ce qu'on pensait au départ.
Donc deux journées d'études sur la question du rapport de l'éthique en archéologie.
Voilà.
Alors est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots,
varié.
Expliquer en quoi ça consiste?
En fait, c'est extrêmement variable. Ça va des rapports entre les archéologues amateurs, les archéologues professionnels, aux pratiques de publication, aux rapports avec les communautés qui sont voisines des sites archéologiques. Voilà, au rapport avec les hommes politiques aussi. Vous parlez le mois dernier, vous avez parlé des zones de conflit. C'est aussi des questions qui sont importantes du point de vue de l'éthique. Qu'est-ce qu'on fait quand on fouille dans une zone en conflit? Donc voilà, c'est un sujet pluriel.
Voilà, donc il y a des questionnements scientifiques que l'archéologue doit se poser, mais aussi donc il est confronté à des questions beaucoup plus pratiques. Alors une des premières questions pratiques auxquelles il est confronté assez fréquemment, notamment en ce moment et notamment en France, c'est le problème de la mise en concurrence des opérateurs de recherche en archéologie préventive. Donc on rappelle, l'archéologie préventive, c'est l'archéologie que l'on pratique en fait avant la mise en place d'un chantier de construction, par exemple avant de construire une voie SNCF ou une gare ou quoi que ce soit. On appelle les archéologues pour qu'ils jettent un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a pas trop de choses que l'on va abîmer juste avant. Et donc cette archéologie préventive, elle est prise en charge donc soit par l'INRAP, donc l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, soit par des organismes de recherche privés qui depuis 2003 sont en concurrence.
Tout à fait.
Et alors, quel problème est-ce que ça pose, en fait, la mise en concurrence de ces différents opérateurs?
Le problème, c'est que quand, une fois que le diagnostic est réalisé et que la fouille est prescrite, il y a un appel d'offres. Et l'opérateur, donc l'entreprise qui va effectuer les travaux, doit choisir soit une entreprise d'archéologie, soit l'opérateur public l'INRAP, qui vont lui proposer des projets scientifiques de fouilles avec des devis. Et il va devoir choisir laquelle de ces institutions il veut avoir pour lui libérer le terrain, en fait. Bon. Et évidemment, ces gens-là n'ont pas intérêt. Leur préoccupation première, c'est de libérer le terrain le plus vite possible, ce qui est compréhensible. Hein, c'est pas des archéologues, c'est pas leur métier, chacun son métier. Mais du coup, leur choix est vraiment orienté vers des questions plus budgétaires. Et ça provoque en fait un nivellement par le bas, une sorte de guerre un peu des prix avec les opérateurs privés qui essayent absolument de récupérer des contrats en du coup bradant un petit peu les projets de recherche, les projets de fouilles. Et parfois même en fouillant. Alors certains fouillent très bien, mais il y a ce problème de guerre des prix qui s'installe. Et du coup, il y a un moment, on n'est pas magicien. L'archéologie, ça coûte de l'argent quand même. Et la qualité des recherches risque de s'en ressentir. Donc,
voilà, et donc l'INRAP est aussi obligé de s'aligner par rapport aux autres offres, effectivement. Donc effectivement, un nivellement par le bas. Et du coup, en général, qu'est-ce qu'on touche comme budget quand on nivelle par le bas?
Qu'est-ce qu'on touche comme budget? Enfin,
à quel budget est-ce qu'on on a dans quel budget est-ce qu'on a la, on a le on commence à taper pour descendre les.
Alors
les prix.
Je sais que l'un des reproches qui est fait à certaines entreprises privées d'archéologie, c'est que elles vendraient leurs prestations à perte certaines. Et elle se financerait avec le crédit impôt recherche. Tout ça, ce sont des sujets extrêmement polémiques, puisqu'il y a un peu... il y a beaucoup de passion là-dedans entre les archéologues de l'INRAP et les archéologues du privé. Je pense qu'il ne faut pas du tout diaboliser le privé. Je pense qu'il y a il y a des gens dans le privé qui font un excellent travail. Mais le système actuel provoque en fait cette situation de nivellement par le bas. Et c'est, voilà, c'est problématique pour la recherche.
Donc c'est bien la question de la mise en concurrence qui pose problème ici, effectivement, qui oblige, effectivement, qui engendre pas mal de problèmes. Alors c'est loin d'être le seul sujet auquel les archéologues sont confrontés dans leur pratique quotidienne. On peut en passer en revue quelques-uns. Une fois qu'il a fouillé, une fois qu'il a fait ses fouilles archéologiques, l'archéologue, il doit publier ses résultats. Alors la question de la publication, ça pose aussi problème parce que où est-ce qu'on publie, comment est-ce qu'on publie, comment est-ce qu'on rémunère sur ces publications. Est-ce que tu peux nous dire?
Alors, une fois que vous avez écrit votre article, vous l'envoyez à une revue scientifique qui va demander à des reviewers, donc des spécialistes de votre domaine, d'évaluer votre article, éventuellement de le refuser, soit de l'accepter avec des corrections en général. Et ensuite, il y a une mise en forme du document qui est publié, soit en version papier, soit aujourd'hui de plus en plus en version numérique. Et en fait, le gros problème de ce système, c'est un système qui a très bien fonctionné jusqu'à récemment, mais le problème, c'est que ces 30 dernières années, les revues scientifiques, à l'échelle, je parle à l'échelle internationale, ont commencé à augmenter leurs frais d'abonnement, alors en sciences humaines, c'est moins problématique, mais sur les sciences dures, il y a des abonnements ça se chiffre à l'année à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des grosses revues américaines. Sachant que ces revues ne payent ni les chercheurs, qui sont souvent payés par des institutions publiques, typiquement les universitaires ou les chercheurs au CNRS, ni les reviewers, donc ces scientifiques qui vont relire et évaluer les articles, qui sont bénévoles, qui considèrent que ça fait partie de leur activité de recherche d'avoir cette activité-là aussi. Et donc du coup, on se retrouve dans une situation où en fait les chercheurs doivent payer pour accéder au travail qu'ils ont eux-mêmes produit, qui a été financé souvent par des fonds publics, et même le grand public s'il souhaite accéder à des revues scientifiques, parce que les chercheurs au final, leurs institutions vont payer pour avoir accès à des banques d'articles, souvent aujourd'hui c'est en ligne, pour avoir accès à des revues. Donc voilà, ils investissent de l'argent, au final ils ont quand même accès à ces publications. Alors en France, ça va à peu près. Dans les pays en développement, ça peut être très compliqué. Parce que souvent, on n'a pas les moyens de se payer ces abonnements-là. Mais bon, ça se fait encore. Mais le grand public, lui, va se retrouver, va devoir payer, en fait, un article. Parfois, c'est 20-30 dollars pour une recherche qu'il a financée avec ses impôts. Donc, c'est un peu dommage. Alors, justement, l'année dernière, alors, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant.
L'année dernière, je crois.
L'année dernière. Il y a une loi qui est passée et qui a été salvatrice, je pense. Donc, à partir de
en France.
En France, oui, en France. Depuis l'année dernière, en fait, les articles publiés en sciences humaines depuis un an l'auteur a le droit de les mettre en ligne et de les mettre en ligne en open access. Ce qui fait que voilà, on peut y avoir accès gratuitement. Et pour les sciences dures, c'est 6 mois, puisque un article est plus rapidement obsolète de manière générale pour ces disciplines-là. Donc voilà, c'était une très grande avancée, mais c'est un combat qui n'est pas terminé. Et notamment aux États-Unis, moi je connais un peu, les gens essaient de se battre pour développer en fait des revues qui sont dès le départ, non payante et en open access, pour que la recherche soit accessible à tous. En fait.
Voilà. Donc effectivement, c'est une question qui se pose tous les jours. Et d'ailleurs,
je voulais juste ajouter que c'est important parce que cette question de mise à disposition sur Internet, c'est uniquement pour les articles dont la recherche a été financée à hauteur d'au moins 50% par des fonds de l'État ou de l'UE, l'Union européenne. Ouais. Voilà. C'est pas si vous faites de la recherche en ingénierie chez Total, cette loi ne s'applique pas.
D'accord. Ouais.
Ce qui est un peu normal parce que Total finance sa propre recherche, donc je comprends. Qui garde les droits aussi.
Effectivement, oui. Donc on peut signaler d'ailleurs au passage la tenue d'une journée prochainement le 23 mars qui est organisée par l'INRAP, donc l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, sur la question de l'open access justement.
détectorisme, c'est l'utilisation d'un détecteur de métaux. C'est une composante du pillage. On peut avoir le pillage de sépulture des objets en verre, on peut avoir d'autres pillages, par exemple la vandalisation d'une chapelle. Halte au pillage du patrimoine archéologique et historique, ouais. C'est une association qui existe depuis 2007, qui est à l'origine un collectif d'archéologues et de citoyens, c'est pas que fermé aux archéologues, donc professionnels ou non professionnels, qui vise à lutter contre le pillage du patrimoine sous toutes ses formes. Et particulièrement, la première motivation était le pillage au détecteur de métaux. Alors la loi, elle est codifiée dans le code du patrimoine, qui dit que nul ne peut utiliser d'appareil pour la détection de métaux à des fins archéologiques sans autorisation administrative donc délivrée par le ministère de la Culture, voilà, les services régionaux d'archéologie. En fait, c'est comme une voiture.
Ouais.
La vente des voitures, c'est libre, la possession d'une voiture, c'est libre, mais on ne peut pas utiliser sa voiture tant qu'on n'a pas le permis de conduire.
D'accord.
Le problème étant que c'est une loi qui nous parle de détection à visée archéologique et que tous les détectoristes de France et de Navarre utilisent la petite faille en expliquant qu'ils font la détection à visée non archéologique, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher des objets perdus ou alors ils vont simplement aller chercher des clés ou aller récupérer des monnaies sur la plage. L'ambiguïté est entretenue un peu par les vendeurs de détecteurs ou par les associations en expliquant que la détection est autorisée en dehors des sites archéologiques et que tant qu'on n'est pas sur un site déclaré, on a le droit de faire de la détection. C'est la fameuse détection de loisirs ou la fortuitude. On va faire la détection et on trouve par hasard des objets archéologiques.
Vous pouvez nous expliquer
La découverte fortuite, c'est vraiment sans volonté de faire une découverte archéologique. C'est creuser une canalisation, creuser pour une canalisation, démonter un mur. Les professionnels de la détection sont souvent des revendeurs qui vont apparaître dans des reportages télé, comme quoi ils vont être, entre guillemets, chasseurs de trésors pour aller récupérer des objets. Quand vous vendez un bâtiment, vous voulez savoir s'il n'y a pas le grand-père qui a laissé des objets. C'est souvent ça. Ce sont des personnes qui restent dans la légalité. Ils interviennent à la demande de particuliers. Et après, ceux qui vont être employés, entre guillemets, toujours sur les chantiers, sont plutôt des détectoristes locaux qui font ça en passion le dimanche et qui disent qu'ils ont des relations avec les archéologues. Et les archéologues vont leur demander de venir sur les chantiers. S'ils viennent, ils vont avoir l'autorisation du SRA pour venir, enfin du service régional d'archéologie. Ouais. C'est une pratique à l'association que nous avons tendance à condamner.
Ouais.
Pour la simple raison que ça entretient toujours cette dichotomie dans la détection entre le bon archéologue et le mauvais archéologue. C'est comme le chasseur.
Ouais.
Il y a le bon archéologue qui est intelligent et qui fait appel au détectoriste, et il y a le mauvais archéologue, dont nous sommes des éminents représentants, qui considèrent que les détectoristes n'a pas sa place sur un chantier. Nous ne sommes pas contre les détecteurs de métaux. Mais le détecteur de métaux, c'est un outil au même titre qu'une pelle mécanique ou qu'une truelle. Un détecteur de métaux, ça doit s'employer avec une méthodologie, avec une problématique scientifique. Ça peut s'employer aussi directement par des archéologues. Le gros problème, c'est justement la méconnaissance vraiment de la finalité de l'archéologie. On est persuadé que le rôle de l'archéologue, c'est d'aller déterrer tout ce qui est possible et tout ce qui existe. Donc l'argumentation de la détection, du monde de la détection, c'est oui, mais si on ne va pas les chercher, personne n'ira les chercher. Ça permet aussi d'augmenter la connaissance. Le problème, c'est qu'on sait bien maintenant que le meilleur moyen de conserver un site et des objets, c'est de les laisser en terre. À partir du moment où ils sortent de terre, ils ne sont plus conservés. Et d'autant plus que dans le cadre de la détection, ce sont souvent des pratiques, des exhumations d'objets qui ne sont pas faites dans les règles. Évidemment, les conditions de conservation postérieures sont sujettes à la discussion. De même que la notion de rendu au public, de rendu scientifique avec la notion de rendre un rapport, le devenir des collections, puisqu'on voit bien dans le cas de Laigne que ça a été splitté et ça a été totalement revendu après à droite à gauche. C'est la question aussi d'intégrité des fonds.
Oui, la perte du contexte.
La perte du contexte, etc. L'attrait pour la détection de la part du public vient aussi beaucoup d'un manque de culture archéologique sur la finalité réelle de l'archéologie, qui n'est pas une chasse au trésor, mais qui est de découvrir des faits, etc. On cherche à sensibiliser aussi les pouvoirs publics, les propriétaires de terrain, les communes, vis-à-vis de l'utilisation des détecteurs. Alors, les sessions de médiation, ça peut prendre à peu près toutes les formes, sous forme de conférences pour le public. À l'occasion de conseil d'administration ou une assemblée générale à un endroit, d'en profiter pour faire une réunion d'information pour le public. lors des journées de l'archéologie, lors des journées du patrimoine. On a déjà fait des conférences au sein des universités. On peut proposer des expositions temporaires. Certaines communes nous demandent parfois des panneaux.
Et donc vous, au jour le jour, en tant qu'archéologue donc professionnel, en quoi ça joue sur votre travail ?
Une collègue notamment, qui a déjà été confrontée à ce genre de problème, avec la désagréable sensation de revenir le matin et de s'apercevoir qu'il y a des trous sur son site, que quelqu'un est passé dans la nuit. C'est presque assimilable à un viol de...
Ou un vol.
Un vol. Mais c'est assez prenant pour l'archéologue. Il y a une politique que je regrette, qu'on peut voir parfois, c'est la politique de « faut rien laisser le soir
». Oui, c'est tout couvrir.
C'est « on va tout couvrir, on va se dépêcher de fouiller, quitte à mal fouiller, ou fouiller bizarrement, pour ne pas laisser d'objets métalliques. Par exemple, commencer par fouiller une sépulture, par le bassin, pour ne pas laisser la plaque bouc ou pour ne pas laisser l'épée. C'est des comportements qui sont bizarres en termes de méthodologie, qui sont totalement contraires à la méthodologie classique, mais que certains professionnels vont chercher à mettre en œuvre par peur du pillage. Alors on ne peut pas leur en vouloir, mais c'est dommageable d'avoir peur des pillages. Le problème étant qu'on peut instaurer aussi des gardiennages des sites, notamment à une époque où on est dans un contexte concurrentiel, un contexte de devis, etc. Le gardiennage du site coûte malheureusement cher.
Bah oui.
Et on n'est pas à l'abri de tout. Il suffit juste que le gardien soit parti ou qu'il soit arrêté 5 minutes.
C'est ça,
ça peut aller très vite, surtout quand le chantier fait 2 hectares et qu'on est dans la nuit.
Merci pour votre vigilance.
Voilà, donc c'est une interview que j'ai faite avec Thomas Lecreur, donc qui appartient à l'association APAM, Halte au pillage du patrimoine archéologique et historique, et qui nous parlait donc du pillage de l'archéologie, qui est un des problèmes auxquels sont confrontés les archéologues, pas uniquement les étudiants, parce que là on a décidé de parler des étudiants aujourd'hui, mais il n'y a pas effectivement que ça. Après ça continue, il y a encore des problèmes, mais voilà. Ouais.
C'est vrai que ça pose vraiment la question du rapport entre archéologues professionnels et archéologues amateurs, parce que beaucoup de détectoristes se présentent comme étant archéologues amateurs. Donc c'est aussi...
Il y avait encore un reportage là récemment sur BFM où on a fait venir effectivement quelqu'un qui chasse des trésors et en le faisant passer pour quelqu'un qui protège le patrimoine. Voilà. C'était très agréable.
Aux États-Unis, il y a des émissions de télé-réalité sur l'archéologie qui sont absolument scientifiquement un désastre absolu. Malheureusement, la loi américaine est moins favorable aux scientifiques que la loi française, donc on a quand même de la chance.
Donc on se plaît en France en fait, c'est encore pire ailleurs.
Aux États-Unis, c'est parfois très difficile. Voilà.
Mais la question de ce rapport entre le professionnel et l'amateur, c'est aussi une question que vous allez aborder lors de votre
journée d'études. Alors tout à fait, lors de notre journée d'études, de nos journées d'études sur l'éthique, puisqu'en fait, c'est des relations... alors on ne parle pas, il faut bien préciser, on ne parle pas des associations d'amateurs qui sont des associations très installées, qui ont des autorisations de fouilles, qui rendent des rapports et qui sont des associations qui scientifiquement vraiment produisent un travail souvent admirable. Mais du passionné dans sa région va prospecter, rechercher des sites, ou même des plongeurs. Hein. En plongée, c'est très courant. Des plongeurs qui connaissent très bien une zone et qui vont, au fur et à mesure des années, se mettre à très bien connaître les épaves locales et qui plongent. Alors, il y a beaucoup de plongeurs qui font ça et il n'y a pas assez d'archéologues pour prospecter à la même échelle les fonds marins. Donc, finalement, c'est des gens qui ont des connaissances qui intéressent les archéologues, qui connaissent souvent très bien les zones qui prospectent. Et c'est dommage d'avoir un rapport brut, conflictuel. Et ce serait pas mal d'essayer d'avoir parfois des rapports plus apaisés. Alors, sans être naïf, hein, évidemment, on vient d'entendre, les détectoristes, c'est un réel problème. Sans être naïf, mais d'éviter de braquer les gens. Et peut-être, même si les gens ont eu une pratique qui peut nous hérisser, essayer de les convertir à notre cause et d'avancer main dans la main. Donc,
cette question, ça pose aussi de manière générale le rapport, celle du rapport qu'entretiennent les archéologues professionnels avec le grand public. Et on peut aussi se poser une autre question, c'est la question du problème du tourisme et en quoi est-ce que ça peut parfois fragiliser certains sites. Alors Bastien, toi qui travailles sur des sites probablement assez touristiques en Crète, est-ce que tu constates que le tourisme pose des problèmes ou
Eh ben, oui.
Comment le dire?
Si, bien sûr, je pense que là, c'est pas seulement valable pour la Crète, c'est plus commun à l'ensemble des sites archéologiques. En l'occurrence, en Crète, ce sont plutôt des sites de plein air, des sites et qui n'ont pas forcément le matériel adéquat pour les protéger. C'est des sites qui sont beaucoup visités, donc forcément, les gens se promènent dans les vestiges, grimpent sur les murs, etc. Mmh. Donc oui, mais je pense que c'est plus général. D'autres exemples, on en connaît.
Oui, c'est un problème en fait global. Ouais. Le problème des sites archéologiques qui sont très visités, c'est souvent des gros sites. Hein, on pense à Pompéi, le Machu Picchu, qui sont des sites qui sont très fragilisés par le tourisme. Et on n'a pas les moyens en général de mettre, déjà dans les musées on a du mal à mettre un gardien par salle pour empêcher les gens de prendre des photos avec flash, alors vous imaginez sur plusieurs hectares de sites ce que ça coûterait de mettre un gardien devant chaque maison de Pompéi pour éviter que les gens écrivent leur nom sur les murs ou que les gens montent sur les murs du Machu Picchu et les fassent peu à peu s'effondrer et du coup on repose vraiment sur le civisme du touriste de base, et malheureusement ces aires de tourisme de masse, bon je dis pas qu'au 19e siècle je crois que c'est Byron qui avait mis un gros, qui avait gravé son nom sur le Parthénon. Bref, donc le graffiti touristique est aussi vieux que le tourisme, mais voilà, aujourd'hui le tourisme est de très grande ampleur et du coup l'impact sur les sites est important et voilà, c'est encore une question qui est difficile à gérer.
Ils deviennent eux-mêmes des éléments archéologiques.
Alors le problème, c'est encore une fois, c'est toujours l'ampleur. Hein. Un peu de graffiti du 19e siècle, c'est très pittoresque. Beaucoup de graffiti sur tout un mur et que le mur en est défiguré, c'est quand même dommage. Et puis il n'y a pas que ça. Hein. Voilà, monter sur un mur, ça provoque à terme son effondrement. Puis après on a des histoires d'entretien des sites.
Tu parlais de Pompéi.
Voilà, Pompéi, il y a la maison des gladiateurs qui s'est effondrée suite à des orages importants il y a quelques années parce que l'Italie, alors mais c'est un site qui reçoit des fonds autres que le budget seul alloué par l'Italie elle-même, et heureusement, mais c'est des sites qui coûtent des fortunes à entretenir et il faut vraiment une volonté politique forte pour éviter ce genre de catastrophe.
Bastien, tu voulais ajouter ?
Oui, non, je voulais rebondir sur ce que disait Béline, sur le fait, en Crète aussi, je connais des sites qui sont, pour lesquels on ne paye pas de gardien, puisque en fait, les budgets ne le permettent pas, donc ce sont des sites qui ne sont pas visitables et qui sont toujours fermés par des barrières, c'est le contre-exemple, on va dire, parce que le tourisme fait aussi vivre l'économie culturelle.
C'est dommage aussi,
pas accessible.
Never go back.
Et c'était Conrad du groupe Son qui disait en substance bah, « Maintenant, puisqu'on y est, autant continuer, on ne peut plus reculer. » Donc ça correspond bien aux choses qu'on peut rencontrer dans la vie et que les archéologues aussi peuvent rencontrer. Alors on continue, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, écoutez toujours Les Pierres qui Roulent et on parle toujours des galères et des conflits auxquels peuvent être confrontés les archéologues dans le cadre de leur pratique quotidienne.
Et toi, tu veux faire quoi quand tu seras grand ? Moi, je veux faire archéologue.
Oui, et oui, mon petit, tu veux faire archéologue, mais il faut te prévenir, ça sera pas facile tous les jours. Donc on continue avec Béline Pasquini qui nous parle de l'éthique en archéologie. Alors il y a un autre sujet aussi auquel sont confrontés, alors peut-être on n'est pas encore trop bien beaucoup confronté en France à cette question, mais on l'est beaucoup en tout cas dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, à la question de la place des communautés dans la gestion des vestiges. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le débat?
Je pense que, enfin, mon opinion personnelle, et c'est pour ça que je m'intéresse au sujet, c'est que c'est des questions qui se posent également en France. Mais c'est vrai qu'au départ, ce sont des questionnements qui sont nés dans les pays anglo-saxons, et plus précisément dans les pays anglo-saxons issus d'un processus de colonisation, donc le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, où les archéologues se sont retrouvés à pratiquer des fouilles sur les des fouilles liées aux cultures en fait indigènes locales, hein, des cultures autochtones, et les descendants de ces cultures, les communautés amérindiennes par exemple. Aux États-Unis, on dit natives en anglais, parce que c'est politiquement incorrect de dire indien, mais se sont mis à protester et à dire que, par exemple, il n'est pas question qu'on ouvre les tombes de certains de leurs ancêtres, suite à quoi une loi très célèbre est passée dans les années 90 qui s'appelle le NAGPRA. Et limite en fait la fouille de sépultures de ces cultures-là, et les communautés ont leur mot à dire concernant ces fouilles. Donc voilà, au départ c'est parti vraiment sur l'archéologie funéraire et cette question d'un rapport cette dette coloniale que ces pays-là ne finiront sans doute jamais de payer. Qui êtes-vous pour venir ouvrir les tombes de nos ancêtres ? C'est votre culture de faire ça. Nous, on ne fait pas ça. Et respectez ça. Donc, qui est une attitude extrême, c'est une position qui est respectable, il me semble. Mais je pense qu'en fait, c'est des sensibilités qui s'expriment de plus en plus également en Europe. Puisque de plus en plus, les anthropologues avec qui je parle me disent qu'ils ont l'impression que le public se pose en plus de questions quand on ouvre des sépultures, et notamment des sépultures récentes. Donc c'est aux archéologues aussi de communiquer différemment sur leur pratique, puisque bien manifestement la société évolue, la société change, des choses qui ne choquaient pas auparavant commencent à choquer, donc peut-être avoir un rapport, essayer de réfléchir pour comprendre comment on pourrait rétablir un rapport apaisé entre ces personnes qui sont choquées. On a le droit d'être choqué par ce genre de choses, je veux dire, on a tous des sensibilités différentes, et les archéologues qui veulent poursuivre leur projet de recherche scientifique. Mais au-delà même de la question précise des sépultures, la question du rapport aux communautés qui sont voisines des sites archéologiques, c'est un sujet qui occupe les archéologues partout dans le monde. Et moi, j'ai vécu personnellement un épisode quand j'étais en vacances en Corse, mais j'ai assisté à un épisode très intéressant où, en fait, dans un village du Cap Corse, le drasme est venu. Alors le drasme, c'est l'organisme de l'État qui est chargé des fouilles sous-marines. Est venu prélever en fait une inscription romaine qui se trouvait à quelque chose comme 2 mètres de fond sur une plage, et il se trouve que tous les habitants n'étaient pas forcément au courant de ce qui allait se passer. Il y avait une paillote sur la plage, le type de la paillote leur a demandé ce qu'il faisait là, enfin le ton est un petit peu monté. Ça a fini à la une de Corse Matin avec un article en demi-teinte. Et je pense que c'est des choses qui pourraient être évitées. Je pense que voilà, il faut arrêter d'agir en bon vieux jacobin. En tant que grand dépositaire de l'autorité de l'État, je pense que l'archéologie, c'est quelque chose qui doit se faire main dans la main avec les gens qui occupent les territoires.
Puis ça fait écho aussi à tout ce qui se passe dans les musées et l'organisation des restes humains, la présentation des restes humains, ce qui s'est passé avec les têtes maoris également qui ont été rendues.
Oui, tout à fait. À Nouvelle-Calédonie. C'est les mêmes sujets.
Ouais. Bastien, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, c'est très intéressant et c'est vrai que la communication, c'est important aussi pour pas que ça reste de l'entre-soi. Par contre, je voudrais revenir sur quelque chose, la question des sépultures. C'est vrai que ça concerne, tu le disais, aussi l'archéologie métropolitaine. Et très souvent, on entend des archéologues des contextes funéraires nous dire que les gens qui vivent à côté des sites, ça arrive, viennent se plaindre, surtout quand il s'agit de gens qui ont des croyances religieuses, puisqu'ils ont l'impression qu'on fouille leurs ancêtres et donc on les prive du passé. Ceci dit, je pense qu'il ne faut pas être non plus conservateur vis-à-vis de ça, parce que très généralement, ça se fait dans le cadre de l'archéologie préventive. Et ce que répondent les archéologues des contextes funéraires, c'est que, de toute manière, les aménageurs du territoire vont détruire avec le bulldozer ses ossements, ses squelettes, et autant que ça se fasse avec les doigts minutieux, finalement, de l'archéologue, dans une visée scientifique, que tout simplement des ossements qui vont finir dans les déblais.
Alors, donc, on l'a vu, ça, on est parfois confronté. Donc, tout ça, l'archéologie peut froisser un peu des sensibilités. Ça peut aussi froisser des sensibilités politiques, mettre en jeu provoquer des débats politiques. Alors, Manon, on a été faire une interview de Christophe Petit.
Donc, pour rappeler un petit peu, pour contextualiser, ça se passe sur un site qui se passe en 52 avant Jésus-Christ.
Alors, toute la Gaule est occupée par les Romains, sauf un village...
Léa,
pardon, vieux réflexe.
En 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix y rend les armes face à l'armée romaine de Jules César, suite au siège d'Alésia. Et sous Napoléon III, puis dans les années 90, il y a des recherches scientifiques et archéologiques qui permettent de poser le constat qu'Alésia se trouve à Alice-Saint-Traine, en Côte d'Or. Mais depuis les années 60, cette localisation, elle est remise en question face à la découverte d'autres sites comme celui de Cholet-Crotenay dans le Jura. Et du coup, avec Léa, on a été interrogé Christophe Petit, qui est archéo-environnementaliste à Paris 1 Sorbonne, pour qui cette remise en cause, elle est, je cite, « publique, permanente et sans fondement du travail scientifique mené en archéologie et en histoire et qui doit tous nous faire réagir ». Donc ils sont 21 chercheurs, dont Christophe Petit, à avoir lancé il y a 4 mois une pétition en ligne pour que chercheurs, institutions et individus ils puissent vraiment soutenir la science historique et archéologique face à des recherches qui sont coûteuses, qui sont menées au Jura et qui participent surtout à intensifier une controverse politique, régionale et anti-universitaire.
Oui, alors je peux me présenter. Christophe Petit, je suis professeur d'archéologie environnementale à Paris 1, où je développe cette discipline assez rare à l'échelle de l'archéologie française. Et donc j'ai été conduit à travailler sur le site d'Alésia depuis très longtemps, puisque c'est le site où j'ai commencé à fouiller à partir d'un très jeune âge. Et j'ai participé à des fouilles très importantes conduites par Michel Redé et von Stormbein, un collègue allemand, pour retravailler sur le dossier d'Alésia dans les années 2000. Donc c'est une histoire assez longue pour moi et très attachante parce que je suis bourguignon d'origine, donc je connais très bien ce site. La localisation d'Alésia est une question scientifique qui s'est posée depuis très longtemps. Il y avait une tradition historique comme quoi c'était Alésia à Alice-Saint-Traine en Côte d'Or. C'est une recherche qui a été initiée par Napoléon III. Au bout de quelques campagnes, les gens ont été convaincus que Alésia était à Alice-Saint-Traine, comme la tradition le disait, mais sur des arguments archéologiques qui, pour moi, restent encore des arguments très forts. C'est-à-dire que beaucoup de mobilier datait à peu près de cette période-là, même si c'était moins bien daté que maintenant. Et surtout, on avait trouvé toutes les défenses creusées par l'armée césarienne. Donc, la preuve, elle est archéologique. On a trouvé ces fossés sur plus d'une trentaine de kilomètres de long. On a des fouilles de Napoléon III, on a des fouilles de l'équipe de Michel Redé, on a surtout un corpus de photographies aériennes exceptionnelles. Il y a eu 70 000 photos aériennes faites par René Goguet pour repérer toutes les structures de la bataille. Et maintenant, des données LIDAR qui permettent de compléter le dossier d'Alésia. Pour arriver à bien comprendre les données archéologiques, souvent c'est des approches pluridisciplinaires, donc il faut avoir un œil exercé, avoir des compétences sur la lecture de ces archives sédimentaires. Donc c'est pour ça que des environnementalistes, ou des spécialistes de l'IDA, ou des spécialistes des sols et de la dynamique des sédiments, rentrent dans ce dossier archéologique, parce que les questions qui se posent encore, c'est sur la préservation des structures, pour se concentrer sur les secteurs qui sont les plus prometteurs.
En tout cas, il s'accroche, comme la plupart des historiens, à la thèse officielle qui veut qu'Alésia doit que son Thalys soit Alise Saint-Reine.
Pour eux, il ne fait aucun doute que la plus grande bataille de l'histoire ancienne a bien eu lieu ici dans le Jura et non en Bourgogne, contrairement à ce que dit la thèse officielle depuis le 19e siècle.
Il y a eu depuis longtemps des gens qui veulent vraiment mettre Alésia ailleurs qu'à Alise Saint-Reine. Alors il y a plusieurs sites en Franche-Comté, donc ça entretient cette espèce de petite guéguerre entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc il y a eu Alèze, après il y a eu Cholet-Crotenay, il y a eu Siam, il y a plein de sites en Franche-Comté qui, d'un point de vue topographique, pouvaient correspondre au site de la bataille. Tous les ans, dans les journaux de Bourgogne-Franche-Comté, il y avait des articles sur dire qu'Alésia n'était pas Alésia, qu'on ne savait toujours pas. C'est pas très bon pour la connaissance scientifique de toute la population française d'entretenir ce genre d'erreurs scientifiques. Et donc on s'est senti obligé de faire cette pétition parce qu'il y a beaucoup d'argent de l'État, des collectivités, qui sont dépensés pour entretenir des mythes historique, comme quoi Alésia ne serait pas Alésia, mais en Franche-Comté. Donc on ne peut pas dépenser de l'argent à raconter n'importe quoi ou à faire croire qu'on va trouver des choses qui ne peuvent pas exister, alors qu'on n'est pas spécialement une discipline qui est particulièrement riche. Un certain nombre de personnes politiques sont prêts à ne pas vouloir avoir de données scientifiques, mais entretenir ce flou artistique pour eux, pour essayer de développer leur région, des choses comme ça. Et on est confronté à des personnes qui sont responsables de la culture en Franche-Comté qui ne disent pas clairement que Alésia et Alise Saint-Reine. Donc ça, c'est pas normal. C'est des gens qui n'écoutent pas un discours scientifique et historique et qui sont sur des opinions politiques. Donc c'est pour ça que nous avons essayé de réagir avec cette pétition. Parce qu'il y a aussi des partis politiques qui entretiennent cette notion de l'histoire officielle n'est pas bonne, on nous ment, il y a un grand complot. Et donc non, il y a des données scientifiques qu'on essaye d'interpréter. Il faut essayer que les scientifiques fassent aussi de la médiation sur cette information pour que ce soit plus clair, quoi. On ne peut pas mentir sans arrêt aux gens en leur disant « c'est pas grave ». Si, c'est grave. C'est grave que tous les ans, il y ait encore des articles de journaux pour dire qu'Alésia n'est pas Alésia. C'est grave pour moi. Donc il faut essayer d'enfoncer le clou régulièrement.
Et donc c'était l'interview de Christophe Petit qui nous a bien exposé un petit peu la possible récupération politique des fouilles archéologiques, ce dont on avait déjà parlé d'ailleurs lors de notre dernière émission de décembre avec l'association des Routes de l'Orient. Béline, à ce sujet, est-ce que c'est quelque chose qui aussi vous intéressera lors de cette journée?
Sur le cas d'Alésia, je crois que Christophe Petit voulait faire une intervention, mais c'est clair que c'est assez incroyable comme histoire, parce que dès qu'on s'intéresse un petit peu... Enfin, les chercheurs se retrouvent... les scientifiques se trouvent obligés de se défendre sur cette histoire, alors qu'en vrai, quand on s'intéresse un petit peu à la littérature scientifique, il n'y a aucun doute, et c'est une histoire quand même assez, assez folle dans toute cette veine des théories un peu complotistes, comme on disait, on nous ment. Donc voilà, c'est assez incroyable. Et je crois qu'il en parle très bien.
Ouais, c'est vrai que c'est un gros problème, cette remise en cause permanente, et ces gens qui ne veulent pas comprendre ce que c'est que l'archéologie et ce à quoi ça peut servir, ou la science en général. Voilà, c'est vrai qu'on est dans un contexte qui n'est pas facile pour la science, malheureusement.
Est-ce qu'on peut rappeler du coup le colloque que vous allez organiser? Quand est-ce que ça se fera et qui sont, voilà, qu'est-ce que vous avez prévu?
si vous avez des intervenants.
Alors c'est normalement ça aura lieu. Ce seront deux journées d'études qui auront lieu en juin 2018. Alors plutôt au printemps-été 2018. Alors ça paraît très loin maintenant, mais en fait c'est des journées qui demandent beaucoup d'organisation. Et donc
c'est,
là,
si c'est le travail d'un chercheur en
archéologie. Voilà, tout à fait. mais c'est passionnant. Oui. Parce qu'on dit on a des difficultés, etc. Tout ça, mais on a quand même la chance aussi de faire ce qu'on aime et c'est une chance incroyable.
À ces questions et passionnant.
Voilà, en plus, c'est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, ça me passionne. Et je pense que ça devrait passionner davantage d'archéologues. Et donc, voilà, on va aborder les questions de communication et de médiatisation, de la question de l'appartenance du patrimoine archéologique. On parlait des communautés, des amateurs, etc. Et puis, après... cette question aussi des contraintes économiques de plus en plus fortes et de des régulations, le rapport entre qualité et quantité.
Là, vous avez lancé un appel à communication ?
Alors, on n'a pas lancé d'appel à communication. Pour l'instant, on fait des appels ciblés vers des personnes qui nous intéressent et on ne va pas faire d'appel général, malheureusement.
Vous avez déjà beaucoup.
Parce qu'on a déjà beaucoup de gens qui sont intéressés.
Bon, donc, on a hâte.
Voilà, donc on vous fera part du programme.
Ouais. Avec grand plaisir.
Bon, et puis on note aussi que Lola devait nous faire des chroniques, mais on n'a vraiment pas du tout de temps. Donc,
Coucou.
Mais elle est là quand même, Lola, elle a tout écouté.
As-tu apprécié ce moment avec les archéologues? Mais promis, la semaine prochaine, elle nous a préparé des choses. Le mois prochain, oui, merci, je suis fatiguée. Maintenant, tu veux t'inscrire.
On rappelle ceux qui sont intéressés par la pétition de Christophe Petit. On mettra le lien sur la page Facebook, Twitter et sur le replay.
Instagram, le replay, voilà. partout. Merci à nos deux intervenants d'être venus aujourd'hui.
Merci
un bon moment et on se voit donc le mois prochain, toujours les pierres qui roulent sur Radio Campus Paris. Merci beaucoup.
Bonne soirée.